Alors, ce matin, je voudrais que nous puissions retourner dans le passé, ouvrir les portes d'une église du passé et regarder un peu. En fait, ce matin, je me suis dit, nous avons des études bibliques et pour le moment, nous faisons des études bibliques sur l'Apocalypse. Et je me suis dit, comme nous n'avons pas toujours une grande assistance, peut-être que en essayant d'ouvrir et de lire et d'étudier, d'aborder l'histoire d'une église ce matin, ça nous donnerait peut-être envie de venir à l'étude biblique. Et puisque nous sommes encore dans l'Apocalypse, pourquoi pas de venir nous rejoindre dans ces sujets. Ce matin, je sais que vous connaissez ces histoires qui sont dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse, mais j'aimerais encore ce matin repartager cela avec nous. Alors, nous allons lire ce matin, revisiter une église de l'Apocalypse. Vous savez que dans le livre d'Apocalypse, il y a des lettres, 7 lettres, écrites à 7 églises. Et je voudrais, pour ma part, aujourd'hui, aborder une des églises qui nous ressemble un peu et qui pourrait être aujourd'hui un cadre de réflexion, une référence pour nous de penser encore l'Église. Je voudrais vous inviter que pendant que nous lisons ce texte et pendant que nous découvrons cette Église, aussi de continuer à garder cette idée de la puissance de Dieu. À cette époque déjà, il y avait des Églises. Il y a de cela déjà plus de 2000 ans. Il y avait déjà des Églises qui existaient. Il y a encore des Églises aujourd'hui. Combien les œuvres de Dieu sont grandes à travers le temps, malgré tout ce que le diable, tout ce que l'homme, tout ce que les pouvoirs ont essayé pour casser les églises, l'église subsiste parce que c'est une œuvre qui témoigne de la puissance de Dieu. Alors, ce matin, donc, nous allons lire la lettre à l'église de Sardes. Mais prions d'abord. Notre Dieu, notre Père, nous voulons revisiter encore ta parole et à travers ta parole ouvrir les portes d'une église ancienne mais qui peut nous apporter du neuf encore aujourd'hui pour nous, ceux d'aujourd'hui. Éclaire-nous dans cette découverte ou redécouverte et aide-nous à être comblés en toi. Seigneur, conduis-nous au nom de Jésus. Amen. Nous allons d'abord lire évidemment la lettre. Alors, Apocalypse chapitre 3, du verset 1 au verset 6, écrit à l'ange de l'église de Sardes, « Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » Rappelle-toi donc comment tu as reçu, tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et réponds-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi vêtu des vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père écumant et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ah, c'est un peu perturbant, le Père écumant. Enfin bon. Ok. Alors, ceux qui font l'étude biblique, évidemment, ne seront pas toujours bien comblé, parce que dans l'étude biblique, nous allons verset après verset, bien sûr en gardant le contexte en vue, mais ici, ce n'est pas le but. Ici, c'est vraiment d'aborder un thème, un sujet, et de l'aborder d'une manière plus générale. Beaucoup de gens ont peur du livre d'Apocalypse. J'espère que ce n'est pas votre cas ce matin. Rassurez-moi, vous n'avez pas peur du livre d'Apocalypse. Bien, excellent. Vous avez raison de ne pas avoir peur du livre d'Apocalypse. Parce que l'Apocalypse, c'est un livre qui est précieux et parce qu'il est plein d'espérance. C'est un livre qui est plein d'espérance pour le croyant. C'est écrit, bien sûr, avec une figure de style un peu particulière, qui fait un peu peur parfois, et je peux comprendre que certains films se servent des scénarios qui sont décrits dans l'Apocalypse. Mais l'Apocalypse est un livre qui nous enrichit énormément. À la fois parce que l'Apocalypse est le livre des événements derniers, où Dieu déploie encore sa puissance pour montrer comment il est au contrôle à la fois du début des événements, c'est-à-dire à la création, au début de la vie humaine, mais aussi comment il est au contrôle de la fin des choses, de la manière dont les choses se terminent, du moins le monde dans lequel nous sommes se termine. Dieu est au contrôle aussi des événements liés à cela. Pas seulement des événements au niveau des églises, mais des événements au niveau de l'histoire humaine, de l'histoire du monde. Il est intéressant aussi de revisiter des lettres. Je ne vais pas revenir sur la structure de l'Apocalypse, mais c'est intéressant de revisiter les lettres parce que il y a beaucoup de choses qui sont là, qui sont aussi intéressantes pour nous à réfléchir ce matin. Remarquez une chose. Dans cette lettre, comme dans toutes les autres lettres, il y a toujours trois choses qui sont en permanence présentes. Première chose, il y a toujours cet ordre de écrit. On s'adresse à une église. Et celui qui s'adresse à l'église, c'est toujours le Seigneur Jésus. Il dit toujours, je connais. Il connaît. Il dit toujours, dans ce qu'il connaît, les choses qui sont positives et les choses qui sont négatives. Ensuite, il y a toujours une solution. Fais ceci si tu veux aller de l'avant, si tu veux pas avoir des soucis. Et puis, enfin, troisième chose qu'il y a, c'est toujours une récompense avec celui qui va vaincre, qui va réussir. La lettre ici ne déroge pas à ce principe-là. Peut-être, puisque je parle de pousser la porte à une église locale, peut-être situer un peu, c'est quelle est cette église? L'église qui est située dans la ville de Sardes. Sardes était la capitale du royaume de Lydie, un vieil empire situé en Asie mineure, actuellement en Turquie. Elle était située à peu près 80 kilomètres à l'est de Smyrne. Smyrne, c'est encore une autre église qui n'était pas très loin de là. Et en fait, ils sont au sud de la plaine de Hermès où coule le Pactole. Ça aurait été peut-être mieux d'avoir la carte, comme ça vous voyez, mais bon, voilà. Vous pouvez regarder ça dans vos références, dans les cartes qui sont sur vos Bibles. Alors, Sardes était riche parce que il y avait des vergers, c'est-à-dire vraiment des fruits. Il y avait une industrie textile florissante. Il y avait des bijouteries. Et d'une manière générale, il y avait des grandes richesses qui étaient tirées de l'or. Et Sardes était à l'époque une des villes les plus riches de l'époque. C'est d'ailleurs dans cette ville-là qu'on dit qu'on a fait les premières pièces, on a frappé les premières pièces de monnaie. Et je ne sais pas si vous connaissez un homme qui s'appelle Crésus, de qui on a hérité l'expression « riche comme Crésus », eh bien, lui, c'était un des rois de cette ville. Et à l'époque, il était effectivement, peut-être probablement, l'homme le plus riche de son époque, l'époque connue. Mais comme toute ville, évidemment, prospère, Sardes a fait l'objet de plusieurs conquêtes. Elle a été attaquée par plusieurs nations, et je vais citer notamment les Romains, en 133 avant Jésus. Et puis, la ville va être détruite en 17 avant Jésus-Christ par un tremblement de terre. Mais les Romains vont la rebâtir et même l'embellir. Et donc, l'ordre que Jean reçoit d'écrire cette lettre, eh bien, ça date donc du 1er siècle, donc de l'époque où la ville a été rebâtie, existe. Mais juste pour terminer l'histoire de la ville, il faut savoir qu'elle a été complètement détruite en 1402 Et ensuite, maintenant, il ne reste plus grand-chose, juste un petit village qui s'appelle Sarthe, qui est à côté donc de l'ancien emplacement de l'ancienne ville. Alors, à l'époque de Jésus, il existait dans la ville de Sarthe un quartier juif qui était à la base en fait de l'évangélisation et de l'implantation d'une église florissante. Bien qu'il y avait d'autres temples, comme le temple d'Artémis, le christianisme a trouvé la possibilité d'un essor dans cette ville. C'est donc à cette église que Jésus s'adresse lorsqu'il dit « Je connais tes œuvres ». En réalité, Dieu connaît l'œuvre, connaît l'église. Il sait tout ce qui se passe dans l'église. Il connaît les points faibles et les points forts. Il a la connaissance parfaite de tout ce qui se passe. Pour l'église de Sardes, le bilan est négatif. L'église est moribonde. Elle a l'apparence d'être vivante. Elle a l'apparence d'être florissante comme la ville de Sardes, mais elle est morte au-dedans d'elle. Qu'est-ce qui explique cette mort? Qu'est-ce qui explique cette absence de vie spirituelle? Il y a deux versets qui en donnent les raisons. Christophe, je te mets au boulot. Le verset 2 d'abord. Alors, ce qui donne le premier élément, c'est que Jésus dit, sois vigilant, affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. La première raison de l'aspect moribonde, de cet aspect où en apparence l'Église est vivante, mais au fond elle est morte, le premier élément, c'est que Jésus n'a pas trouvé ses œuvres parfaites. C'est quand même quelque chose qui surprend. Jésus ne reproche pas à cette Église le fait qu'elle fait quelque chose mal ou qu'elle ne le fait pas. Jésus lui reproche son manque de perfection dans le travail. Il lui reproche le fait que son travail n'est pas parfait. C'est un drôle de reproche quand même. On ne reproche pas à quelqu'un le fait qu'il ne fasse pas son travail. Il le fait, mais on lui reproche le fait qu'il ne le fasse pas parfaitement. Et on pourrait dire, mais quel reproche ? Est-ce que on peut comprendre ce reproche? Oui, parce que Dieu vise l'excellence. Il veut pas seulement qu'on fasse des choses, mais qu'on le fasse le mieux que l'on peut, le mieux possible. Il veut la perfection possible. Et pour certains commentateurs, la raison de ce manque de perfection, c'était l'excès de formalisme. Pour d'autres, c'était la mondanité. Bien sûr, en tant que ville très riche, évidemment, la mondanité est toujours quelque chose qui peut menacer. Dans les deux cas, le manque de perfection vient du fait que l'étalon de mesure n'est pas le Saint-Esprit, mais il est l'homme lui-même. Et donc, il y a véritablement ici une part de la vie spirituelle qui manque, parce que l'étalon n'est pas sur le Saint-Esprit, mais sur l'homme. La deuxième raison se trouve au verset 4. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. À l'exception de quelques-uns, l'Église s'était souillée le vêtement. De quoi s'agit-il? La souillure dans la Bible, c'est un état d'impureté à cause des péchés qu'on entretient, au lieu de les confesser, au lieu d'y renoncer. On peut, même en étant chrétien, accumuler une façon de vivre où l'on pêche contre Dieu, et l'on accumule cette façon de vivre en trouvant un million d'excuses, bien sûr. Mais le problème, c'est quoi? À force de de vivre dans cette dimension de péché, on finit par se souiller complètement. Et donc être complètement sale, de manière à avoir des difficultés à pouvoir retrouver. Le péché affaiblit le chrétien, chaque fois. Chaque fois que le chrétien pêche, et qu'il pêche toujours sur la même chose, il finit par spirituellement s'affaiblir et devenir incapable de sortir de ce péché-là. C'est pour ça que lorsque nous péchons, nous devons être vigilants pour se dire stop, avant que les choses deviennent plus graves. Je peux être en but, en combat avec une situation de péché. Je peux être là en train de me battre avec ça, mais je dois me dire, je dois sortir de là. Je dois en aucun cas laisser le péché, essayer de trouver une raison d'exister dans ma vie. Peu importe. Nous avons, nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous entretenons énormément des péchés liés à l'idolâtrie. Nous idolâtrons les choses. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent avant Dieu. J'ai une élève qui m'a dit, monsieur, j'aimerais bien retourner à Dieu. Oh, je veux vraiment, de tout mon cœur. Mais j'ai peur. Tu as peur de quoi? Et j'ai peur de passer à côté de tous ces petits plaisirs de la vie. J'ai peur. Je ne voudrais pas rater les choses de la vie. Et moi, je lui dis, ben, ok, c'est un choix. Tu continues à vivre ta vie, tu ne reviens pas à Dieu, et puis tu vis ta vie. Et quel est le bout de l'aventure? Elle me dit, je sais, le bout de l'aventure, c'est l'enfer. Je dis, ah, ben, c'est toi qui le dis. Vous savez, je n'ai pas le droit de faire du prosélytisme. Hein. Donc déjà, je suis sur un terrain glissant avec mon élève, je ne peux pas déjà dire tout ce que je sors de dire, donc je suis très prudent. Je dis, ah, c'est toi qui l'as dit. Tu dis que c'est l'enfer et pour éviter ça. Ah ben oui, comment monsieur je peux faire pour éviter l'enfer, mais en même temps pour profiter au maximum des petits plaisirs de la vie. Comment je dois faire monsieur? Quelle est la recette? Je lui ai dit, écoute, quelle est la recette pour faire quand tu seras marié, pour vivre ta vie fidèlement avec ta femme, ton mari, et en même temps aller avec d'autres gens? Ah, mais non, ça se fait pas. Je dis, ben, ça se fait pas. Eh ben, ça se fait pas non plus avec Dieu. C'est un choix. Un choix, c'est un peu, choisir, c'est un peu mourir un peu, n'est-ce pas? C'est un peu renoncer à d'autres choses, la mort dans l'âme, en quelque sorte. Le reproche que Dieu fait, c'est cela. Le deuxième reproche, la souillure. Et, malgré l'apparence vivante, l'Église est mourante. Parce que la souillure entraîne le désordre spirituel. Ça entraîne un affaiblissement tel que finalement la vie chrétienne devient une vie de désordre. On finit par être borderline, on est sur un chemin, mais en fait, on a envie de mettre le pied par là, mais en même temps, on a envie de mettre le pied par là. Et on aborde les deux, et à un moment donné, on va pas moufter, hein. On va commencer à vivre comme si tous les deux étaient normaux. Le péché et la sainteté ensemble, en avant, on y va. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'on a été trop loin. Malgré donc l'apparence de vie, l'Église de Sardes est mourante à cause de ces deux éléments, à cause de ces deux choses. D'abord, parce qu'elle n'accomplit pas les œuvres parfaites, et ensuite parce qu'elle s'est souillée, elle a des vêtements souillés. Cette lettre, mes amis, elle peut aussi s'adresser à nous aujourd'hui, aux églises d'aujourd'hui, à notre église aussi, et à nous-mêmes en tant que chrétiens, aujourd'hui dans l'église. Dieu ne demande pas que nous soyons des érudits, des spécialistes, des experts de la Bible. Dieu ne me demande pas d'être formé en théologie avec des grosses têtes qu'on ne sait même plus soulever parce que tellement c'est lourd. Non, Dieu ne demande pas ça. Dieu demande que nous accomplissions le plus parfaitement possible ce que nous avons à faire pour lui. Il veut qu'en tant que communauté, nous fassions parfaitement notre œuvre pour lui. Être parfait dans une œuvre, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire le faire avec la précision mathématique. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que, un, est-ce que je le fais de tout mon cœur? Sincèrement. Est-ce que je le fais avec tout l'amour que j'ai pour Dieu et pour mes frères et sœurs? Ça veut dire que, est-ce que j'utilise tout ce qui est en mon pouvoir pour réaliser cela? C'est tout. Si j'ai peu de moyens, eh ben, j'utilise les peu de moyens. Un jour, j'étais au Canada, c'était pour un mariage, et la personne qui nous avait accueillis n'avait pas beaucoup de moyens. Accueillir déjà une dizaine de personnes chez soi, qui viennent d'un peu partout, et puis, il n'avait pas beaucoup de moyens financièrement. Vous savez quoi? On a rationalisé le repas. On a mangé le repas de la veille, tout ce qui n'était pas terminé la veille, on l'a continué le jour suivant. Et ainsi, on a pu tenir, avec peu de moyens, mais on a pu tenir pendant 10 jours. Parce que il était question de rationaliser les moyens. À aucun moment, nous n'avons souffert de la faim. À aucun moment, nous avons eu l'impression que la nourriture était dégueulasse. Pourquoi? Parce que ceux qui nous ont accueillis ont fait tout leur possible pour qu'avec peu de moyens, notre séjour soit pleinement satisfaisant. Dieu ne demande pas de déployer beaucoup de moyens, mais Dieu veut qu'on soit vrai avec lui, qu'on soit sincère avec lui. Qu'on ne fasse pas les choses parce que je me sens forcé, parce que je veux montrer aux gens que, parce que je voudrais me valoriser. Non, que je fasse les choses parce que j'aime Dieu, parce que j'aime son travail, parce que j'aime son œuvre, parce que Dieu, il compte beaucoup pour moi. Il est tout ce que j'ai. Il est ma richesse, il est mon tout. Et je le fais parce que je veux être vrai, simplement avec lui, et puis avec les autres, bien sûr. C'est ce que ce texte nous donne à réfléchir. Dieu veut que nous puissions veiller sur notre manière de marcher avec le péché. Veiller à ce que le péché ne vienne pas perturber notre vie chrétienne. Vous avez remarqué, il y a des gens dans cette église de Sardes qui ne se sont pas souillés le vêtement. Avez-vous remarqué ça? Pourtant, Dieu ne dit pas, ah les gars, cette église, je l'aime bien, tout se passe bien parce qu'il y a quelques-uns qui. Non. Dieu regarde à ceux qui ont souillé. Comme quoi le péché des uns peut entraîner, malgré la qualité des autres, peut entraîner une condamnation de toute l'église, toute une communauté. Donc, veillons sur notre vie spirituelle afin que nos péchés ne viennent pas à la fois perturber d'abord nous-mêmes et puis perturber la communauté entière et susciter la condamnation de Dieu. Comment sortir de cela? Comment, à la lumière de ce texte, comment sortir de ce double problème qui s'est énoncé? Pour sortir de cela, il faut refuser l'excès du formalisme et de la mondanité. Il faut que nous puissions nous brancher sur le Seigneur. La mondanité, le formalisme, c'est quoi le formalisme? Le formalisme, c'est le fait de se tenir à la forme. Pour les formalistes, la forme est plus importante que le fond. On prie toujours comme ça. On fait toujours comme ça. On dit toujours comme ça. Et sortant que le fond. Alors, on finit par faire des gens qui sont parfaits en apparence. Si on dit que, allez, un exemple de formalisme, Si nous tenons beaucoup à l'église, à ce que tout le monde, dimanche, soit en costard cravate. Donc, tout le monde viendra en costard cravate. Ils auront tous l'air très beaux comme Paul. Il est souvent beau d'ailleurs, Paul. Hein? Depuis que je le connais, il est très beau ce monsieur, c'est incroyable. Toujours en costard cravate tous, bien habillé, tiré à quatre épingles, et on s'assoit, et voilà. Celui qui est devant dit, waouh, c'est une belle assemblée. Les hommes sont en costard cravate. Et puis on en voit un qui se pointe là-bas, avec sa jaquette et sa chemise. Tout le monde le regarde de travers en disant, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il n'a rien compris, lui. On ne vient pas dans la maison de Dieu comme ça, hein. C'est quoi ça? Et le type, il va, petit à petit lui-même, commencer à essayer de disparaître parce qu'il se dit, ouh, je pense que je suis pas au bon endroit. On me l'a fait comprendre par le regard, ou par des sous-entendus, ou par des mots. Ça, c'est le formalisme. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'on en sait? Le gars qui vient avec son costard cravate, qu'est-ce qu'on sait du fond de lui? Qu'est-ce qu'on sait de sa relation avec Dieu? Le gars qui vient en jaquette, qu'est-ce qu'on sait de sa relation avec Dieu? Le formalisme nous enferme dans l'apparence et non pas dans ce qui est profond. La mondanité, c'est une menace permanente pour nous tous. Nous courons le risque tous, chaque fois, d'être menacés de la mondanité. La mondanité, c'est cette tendance à chercher à se conformer au monde, un peu trop. On est obligé quand même, nous sommes dans le monde. Nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes dans le monde. Il y a un minimum quand même que nous devons observer. On n'a pas le choix. On doit quand même respecter les lois de ce pays. On doit quand même respecter le savoir-vivre. On doit quand même respecter la culture. C'est un minimum. Mais la mondanité, ça va plus loin. Je deviens même meilleur que ceux qui sont là. Je fais beaucoup mieux qu'eux. La mondanité est une chose qui nous menace tous. Parce que nous voulons souvent plaire aux gens du monde. Nous voulons tellement ressembler aux gens du monde. Nous croyons souvent que la meilleure façon d'évangéliser, c'est de ressembler aux gens avec qui nous vivons. Alors, s'ils mettent des pantalons tout... comment ils font encore les jeunes, là? Ils mettent des pantalons tout bas ici, là, hein? Alors, une partie de leur slip qui se voit, ah ben oui, on peut le faire, pourquoi pas? On est dans le monde, non? Ça va attirer, soi-disant, les chrétiens. J'en avais un, dernièrement, avec qui j'ai eu une discussion, mais incroyable, je sais plus c'était pourquoi, mais qui me disait, mais, si je fais ça, c'est parce que je veux attirer les gens de cette catégorie-là. Je dis, ben, écoute, tu sais, moi, si je veux attirer les gens qui boivent, je vais aller au café. Ah, tiens, dans le café, il y a des gens qui se saoulent. Et qui boivent, qui sont tout le temps alcoolos. Eh ben, très bien. Je vais aller au café, je vais boire à me saouler, comme ça, je vais les évangéliser. Là, elle fait, Je dis, pourquoi? On peut, bien sûr, se conformer au monde, mais on ne doit pas entrer dans l'esprit de ce monde. Parce que l'esprit de ce monde est hostile à Dieu. Quelle est la solution qui est présentée ici? Nous devons bien sûr comprendre le refus du formalisme et de la mondanité et nous poser des questions par rapport à notre sanctification, à notre vie. Mais dans ce texte, il y a deux choses qui nous sont indiquées. Deux choses. Verset 1. Non, pardon, verset 3. C'est bon, bouge pas. Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu la parole, garde-la et répands-toi. Ça, c'est la clé dans le christianisme, la repentance. Se rappeler d'où on vient. Moi, souvent, quand ma femme me tape sur le système, oh, ça peut arriver, hein, ne regardez pas avec un air de dire « scandale chez les juifs ». Eh bien, j'aime à me rappeler d'où nous venons avec elle. J'aime me souvenir de tous ces moments où je lui ai couru après pour la voir. De tous ces moments où J'ai eu des choses d'elle. Ce moment, il a comblé mon cœur de tous ces enfants qu'elle m'a donnés. Vous savez quoi? Après, elle ne me tape plus sur le système. Je dis merci à Dieu. Se rappeler du chemin parcouru avec Dieu et pouvoir dire en bout de course, Seigneur, je suis d'accord avec toi. Là, j'ai péché. Pardonne-moi. Et la repentance, mes amis, beaucoup de gens se repentent vite. Eh bien, sauf que il n'y a pas de conséquence à ça. Ne faisons plus de la repentance comme des petits distributeurs de petits pains là. Je me repens. Pardonne-moi, Seigneur. Amen. Au revoir. La repentance est un mouvement sérieux où je reconnais mon état de pécheur, où je prends la ferme décision de ne plus retomber dans ce que ma conscience m'a accusé, de ne plus retomber dans mon péché. C'est ça la repentance. Deuxième chose, au verset 2, sois vigilant et affirme le reste qui est prêt de mourir. Ça, c'est une tâche que le chrétien doit avoir chaque jour de sa vie. Être vigilant. Un vigilant, quelqu'un qui est vigilant, c'est comme une sentinelle. Hier, les témoins de Jéhovah sont passés chez moi. Je ne sais pas pourquoi. Ils me disent, je vous apporte votre magazine. Ça veut dire qu'ils ont déjà l'habitude de me déposer des magazines. J'avais pitié d'eux. Mais ils ont parlé de Pâques, ils m'ont invité à leur cérémonie de Pâques. Bon, je sais pas pourquoi, j'étais peut-être trop occupé avec l'Assemblée Générale. J'ai vraiment pas eu le temps de commencer à m'amuser un peu avec eux, mais j'ai dit, ok, ça va, merci, au revoir. Mais quand j'ai pris leur papier, leur fameux livre Tour de garde, alors ma fille, Anaëlle, vient me demander, pourquoi ils disent Tour de garde? Que veut dire Tour de garde? Alors je lui dis, tu vois le dessin là, ça dessine quoi? Il dit, ah oui, c'est une tour, ils ont une espèce de tour comme ça. Je dis, ça c'est la tour. C'est la tour, ça dit que c'est le travail de la sentinelle. La personne qui est là, les châteaux forts avaient des tours à partir desquelles on pouvait regarder, surveiller. Et généralement c'est des tours, soit carrés, soit ronds, où le gars pouvait bien sans trop se déplacer, tourner et regarder, avoir un regard circulaire ou carré, peu importe, il peut voir un peu partout la menace. Eh bien, j'aimerais dire que c'est ça notre rôle, être vigilant, être des sentinelles, des gens qui regardons et qui faisons attention. Qui faisons attention pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. On n'est pas là pour se réjouir du malheur des autres. On n'est pas là pour voir quelqu'un tomber et dire « Oh, ça prouve que moi je suis meilleur, il est tombé !» Non, on est là pour dire « Oh mon suite, il est tombé, oh là là, comment je vais faire pour le relever ?» Peut-être prier intensément, peut-être aller le voir, peut-être l'aider, peut-être lui proposer des choses, etc. Sois vigilant et affermis le reste. Nous sommes les gardiens les uns des autres. Alors ce matin, ce livre, cette lettre, nous montre qu'il y a encore une espérance, puisqu'il dit que si tu, à partir du verset 5, verset 5 et 6, il dit que si tu t'engages véritablement, celui qui vaincra sera vêtu des vêtements blancs. Dieu n'a pas l'espoir qu'après tous ces reproches qu'il nous fait, il n'a pas l'espoir qu'on va tomber. Il a au contraire l'espoir que l'on va vaincre, que l'on sera fort, que l'on sortira. Dieu ne nous parle pas pour nous enfoncer, mais pour nous faire sortir de ce que nous sommes. Et il y a une belle promesse pour cela. Alors ce matin, saisissons-le. Saisissons l'occasion de corriger le tir. Saisissons l'occasion d'appartenir à la catégorie des vainqueurs. Saisissons l'occasion de prendre tout ce que Dieu promet pour nous. Juste terminer avec une note d'espoir. Vous savez quoi? L'église de Sardes a saisi l'occasion. Cette lettre, quand elle lui est arrivée, l'église s'est vraiment repentie. Et elle est partie à nouveau. Voilà un modèle d'église. Peut-être qu'il devrait nous aider, nous aussi. Quand nous sommes face à des situations de péché, face à des situations de difficultés, peut-être pas se dire, c'est fini, mais se relever et partir à nouveau. Amen. Prions. Merci, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci de ce qu'elle peut être d'actualité encore aujourd'hui. Merci de ce qu'elle peut éclairer encore nos cœurs, nos âmes, nous éclairer, éclairer l'Église et nous aider à aller de l'avant. Seigneur, notre prière, c'est que nous ne puissions pas nous présenter à toi avec les choses que tu nous reproches, parce que ta parole est vivante, elle est là, elle est à notre disposition. Aide-nous, Seigneur, nous t'en supplions. Aide-nous à vaincre le formalisme. Aide-nous à vaincre la mondanité. Aide-nous, Seigneur, à être ces chrétiens qui menons, qui agissons avec le mieux que nous savons, Seigneur. Aide-nous à être ces chrétiens qui refusons le péché. Seigneur, aide-nous à saisir tout cela et à avancer avec toi. Au nom de Jésus. Amen.